Quête de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Direct dans l'émission Les Portes de la Connaissance, vous avez reconnu le cri d'un T-Rex, d'un tyrannosaure Rex. C'était dans Jurassic Park, justement. Ces monstres qui sont gigantesques et qui sont des carnivores, parce qu'il y a les carnivores et les herbivores. Et on avait fait une émission avec Éric Buffetot sur les dinosaures il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une émission ensemble avec lui. Une très belle émission d'ailleurs qui avait beaucoup plu aux auditeurs puisque j'ai eu pas mal de réponses. Ça avait bien plu. Alors aujourd'hui, on va parler de la fin des dinosaures. Et oui, parce qu'il y a eu le règne des dinosaures et il y a évidemment la fin des dinosaures. Que sont-ils devenus à la fin et comment ils ont disparu et qu'est devenue la vie après le règne des dinosaures? C'est ce que nous allons voir avec Éric Buffetot qui est en direct sur les ondes d'O2 Radio. Alors Éric, bonjour.
Bonjour.
Alors, après les dinosaures, on avait vu la dernière fois, on avait vu le règne des dinosaures. C'était quoi le titre du livre déjà que vous aviez? C'était sur que faut-il penser des dinosaures? Je ne sais plus, je me rappelle.
C'était idée reçue sur les dinosaures, voilà, je pense.
Voilà, c'était idée reçue sur les dinosaures, voilà. Et après cette émission qui a beaucoup plu aux auditeurs parce qu'on a eu beaucoup de messages, j'aurais aimé savoir le règne des dinosaures a duré combien de temps?
Oh, il a duré à peu près 160 millions d'années, hein, voire un petit peu plus. Donc ça fait pas mal de temps, bien sûr. Et puis c'est terminé, tout a une fin, hein, les dinosaures ont eu leur fin, il y a 66 millions d'années.
Donc, donc nous, on a un petit règne à côté des dinosaures.
Oui, on a un très petit règne, mais maintenant, il faut bien voir aussi que les dinosaures, c'est pas une seule espèce comme espèce humaine, hein. C'est des milliers d'espèces qui se sont succédées, et c'était pas les mêmes dinosaures au début et à la fin, hein. Il faut bien garder ça à l'esprit.
D'accord. Oui, donc on a eu une multitude de races différentes. D'accord.
Voilà, tout à fait.
Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fin du règne des dinosaures? Parce qu'il y a plusieurs théories. Il y avait une théorie à l'époque qui parlait de volcanisme au début et de l'extinction des dinosaures par le volcanisme. Et il y a eu la théorie de la fameuse météorite qui est tombée dans le golfe du Mexique et qui aurait éradiqué les dinosaures. Alors, c'est quoi la théorie qui est la plus en vogue, celle qui, normalement, est la bonne?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu effectivement beaucoup de théories sur la fin des dinosaures. Il n'y en a pas eu deux, il y en a eu des dizaines. Hein. Certaines plutôt farfelues, d'autres moins, mais il y a eu beaucoup de choses. Hein. Les dinosaures auraient été victimes de l'apparition de plantes vénéneuses, ou les dinosaures étaient victimes de la concurrence des mammifères, etc., etc. Enfin, quand on fait la liste, on en trouve des dizaines depuis pas mal de temps. Mais finalement, plus récemment, on s'est concentré principalement sur deux hypothèses. Et comme vous venez de dire, certains ont pensé que c'était un volcanisme particulièrement important qui aurait pu provoquer la fin des dinosaures, et d'autres pensent que c'est l'impact d'une météorite, donc il y a 66 millions d'années, une grosse météorite qui aurait provoqué, plus ou moins indirectement d'ailleurs, la fin des dinosaures. Voilà où on en est, à ceci près qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la météorite est de loin la plus acceptée par la communauté scientifique. Pas par tout le monde, je dirais pas ça, mais une grande majorité qui s'est ralliée à cette idée. Une idée qui commence à avoir un certain âge, disons, puisque ça a été proposé en 1980, donc il y a quand même 45 ans de ça. Et au début, ça a provoqué des controverses très très vigoureuses, disons.
D'accord. Alors, on aurait une météorite qui serait tombée il y a combien de temps à peu près ?
Alors ça, on sait très bien, hein, c'est il y a 66 millions d'années, à la fin de la période Crétacée. On a des datations qui sont précises, et donc. On sait quand ça s'est produit, on sait quand, on sait où, on sait pas mal de choses maintenant. On n'en savait pas autant en 1980 quand l'idée a été proposée, mais aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'éléments sur ce qui s'est produit, ce qui s'est lors de cet impact de météorite.
Alors pour que les dinosaures disparaissent en totalité pratiquement, il a fallu quand même une sacrée météorite, parce que c'est carrément un exterminateur.
Oui, mais alors, ce qu'il faut dire effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est que les dinosaures n'ont pas entièrement disparu, parce qu'il y a encore des dinosaures à l'heure actuelle. Tout le monde n'en est pas conscient, enfin beaucoup de gens le savent aujourd'hui, mais tous les oiseaux que nous voyons tous les jours autour de nous, ce sont des dinosaures en réalité. Donc ce qui a disparu il y a 66 millions d'années, c'était les dinosaures qui n'étaient pas encore devenus des oiseaux. Bon, si on ferme cette parenthèse, disons que tous les dinosaures, autres que les oiseaux, ont effectivement disparu. La météorite, alors, on a fait des estimations sur ces dimensions, qui donnent quelque chose, une dizaine de kilomètres de diamètre. Ça fait une grosse pierre, hein, quand même, et qui a provoqué, là où elle est entrée en collision avec la Terre, a provoqué la formation d'un cratère qui fait dans les 200 kilomètres de diamètre. Alors, vous me direz, 200 km de diamètre par rapport à la surface de la Terre, c'est pas gigantesque, hein, mais ce qui est beaucoup plus gigantesque, c'est les effets que ça a eu à court et moyen terme sur l'environnement global de la Terre. Et c'est là-dedans que c'est dans ce contexte qu'il faut voir la disparition des dinosaures.
D'accord. Alors, ça s'est fait progressivement. Comment ça s'est passé ? Parce que on imagine que l'explosion a été gigantesque. Il y a certainement eu, oui, comme c'était dans le golfe du Mexique, tout ce qui était près de la côte
Oui, il y a eu des estimations de l'énergie qui a été libérée au moment de cet impact. C'est de l'ordre de 5 milliards de fois la bombe atomique d'Hiroshima, disons. Donc c'est une énergie absolument gigantesque. Et donc il y a eu des conséquences. Les conséquences proches, elles ont été certainement énormes. Donc tout a été totalement détruit dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour du point d'impact. Ça paraît absolument certain. Et d'un autre côté, c'est pas le même genre de conséquences si on pense à ce qui s'est passé de l'autre côté de la Terre, hein, disons, je sais pas, en Nouvelle-Zélande ou en Chine, où les dinosaures ont également disparu. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect destruction immédiate autour du point d'impact dans un rayon très important d'ailleurs, et puis ce qui s'est passé sur le reste de la planète.
Alors, le règne des dinosaures, c'est une extinction sur une échelle de combien de temps ?
Contrairement à ce qu'on a souvent pensé, certainement très peu de temps. Hein. C'est probablement quelques années, quelques dizaines d'années, pas beaucoup plus. C'est très très brutal et forcément d'ailleurs, parce que l'impact météoritique en lui-même, c'est un événement instantané, hein. La météorite frappe la Terre et À ce moment-là, il se libère une énergie gigantesque en quelques secondes, et puis ça provoque en très peu de temps des bouleversements énormes. Mais après, les effets plus lointains ont pris un peu plus de temps, mais pas des millions d'années. Hein. Et ça a été très difficile à admettre pour beaucoup de géologues et de paléontologues qui pensaient que dans l'histoire de la Terre et dans l'histoire des êtres vivants, tout se passe lentement, sur des très grandes durées. Et là, c'est pas le cas. C'est quelque chose qui s'est passé vraiment en très peu de temps à l'échelle des temps géologiques.
D'accord. La vie est apparue après et... Alors, est-ce qu'il y a des survivants ? D'abord, est-ce qu'il y a eu des survivants ?
Oui, bien sûr, parce que la vie n'est pas réapparue à partir de rien après la catastrophe. Hein. Il y a eu des survivants. Bon, on a estimé, c'est des estimations qu'il faut prendre comme ça, c'est pas plus que des estimations, mais on a estimé qu'à peu près 70% des espèces qui vivaient à ce moment-là ont disparu à cause de cet événement catastrophique. Mais 70%, ça veut dire qu'il en reste 30%. Donc il y a des animaux et des plantes qui ont survécu, peut-être tant bien que mal, mais qui ont survécu à l'événement et qui après ont pu repeupler la planète et repartir. Relancer des phénomènes d'évolution qui ont donné ensuite le monde que nous connaissons aujourd'hui.
Alors comment c'était ? C'était l'hiver, comme l'hiver nucléaire ? C'était la Terre était recouverte de vapeurs de roche ? Comment ça se passe ?
Alors, si on veut remonter au début de la théorie, en 1980, c'est un groupe de chercheurs américains qui était dirigé par Luis Alvarez, qui était un physicien, qui avait eu le prix Nobel de physique d'ailleurs, et puis son fils qui était géologue, et qui ont vu que dans les couches qui marquent les limites entre le Crétacé et le Tertiaire, il y avait un enrichissement très important d'un métal qui s'appelle iridium, et cet iridium il est très rare dans les roches normales de la croûte terrestre, mais il est très abondant dans certaines météorites. Et donc ils se sont dit, tiens, il faut trouver une raison pour cet enrichissement, et le plus probable c'est l'impact d'une météorite. Et donc à ce moment-là c'était relativement théorique, et puis plus tard on a trouvé le cratère au Mexique qui correspond. Mais leur scénario, ça a été effectivement une sorte d'hiver nucléaire. Leur idée, ça a été que l'impact a injecté dans l'atmosphère des quantités énormes de roches pulvérisées, de la poussière en fait, et que ça a occulté les rayons du soleil, ce qui fait que la surface de la Terre s'est retrouvée dans une certaine obscurité ou semi-obscurité, avec probablement une baisse des températures et puis d'autres effets qui ont été très néfastes aux êtres vivants. Et un des effets les plus néfastes, très probablement, c'est que ça beaucoup affecté la photosynthèse, c'est-à-dire le phénomène par lequel les plantes se développent grâce à l'énergie solaire. Et puisqu'il y a beaucoup moins de lumière pendant quelques temps, les plantes ont dû dépérir sur une très très grande échelle. Et ça, on s'en aperçoit d'ailleurs quand on regarde les restes que nous ont laissés les plantes à cette époque. On a l'impression qu'il y a eu vraiment une très très grande dévastation de tout ce qui était végétal. Et alors, si vous avez ce manque de plantes, hein, pendant pas tellement longtemps, hein, pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça va avoir des conséquences en chaîne sur les autres êtres vivants, et notamment sur les animaux qui mangent des plantes et qui vont se retrouver sans nourriture, et puis ensuite sur les carnivores qui eux-mêmes mangent d'autres animaux et qui vont également, en fin de compte, se retrouver sans nourriture. Et c'est comme ça que, pour schématiser, disons, qu'on explique cette grande extinction d'espèces, y compris celle des dinosaures.
D'accord. Alors, pour en revenir aux animaux qui ont survécu, est-ce que pendant la période du règne des dinosaures, il y avait une autre race que des reptiliens. Il y avait des mammifères ou pas?
Il y avait toutes sortes d'animaux. Hein. On a trop tendance à se dire, à l'époque des dinosaures, il n'y avait que des dinosaures, mais pas du tout. Si on prend que les animaux, il y avait toutes sortes de choses. Hein. Il y avait des insectes, si on prend les vertébrés, il y avait beaucoup d'autres reptiles que les dinosaures. Il y avait des tortues, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, des lézards, et puis il y avait des mammifères. Il y avait qui étaient nombreux en fait, mais qui pour la plupart n'étaient pas très grands. Les animaux les plus grands, c'était les dinosaures, et tant que les dinosaures ont existé, les mammifères sont restés de taille relativement modeste. Hein. Les plus gros mammifères contemporains des dinosaures, ils devaient faire la taille d'un chien de taille moyenne, disons. Et puis ensuite, quand les dinosaures ont disparu, bien, ça a laissé des tas de possibilités aux espèces qui avaient survécu, et y compris aux mammifères. Et donc, après la disparition des dinosaures, on voit les mammifères qui évoluent d'une façon très, très remarquable et qui se diversifient, et puis qui finalement ont donné tous les très nombreux mammifères que l'on voit aujourd'hui, hein, que ce soit tout ce que vous voudrez, des chiens, des chats, des hommes, des baleines, des chauves-souris, enfin toute l'énorme diversité des mammifères qu'il y a de nos jours.
Est-ce que c'est pas parce que les mammifères sont plus petits qu'ils ont survécu?
Ben si, probablement, parce qu'on s'aperçoit d'une chose très nette quand on regarde ce qui s'est produit à ce moment-là, il y a 66 millions d'années, c'est que n'ont survécu que des animaux plutôt de petite taille. Et les plus gros mammifères, les plus gros animaux même, terrestres en tout cas, dans les mers, c'est un tout petit peu différent, et sur la surface de la Terre, sur les continents, les plus gros animaux devaient peser dans les 25 kilos parmi les survivants. Tout ce qui était plus gros a disparu. Et alors pourquoi? Ben sans doute parce que les animaux plus petits avaient des besoins alimentaires moins importants. Ils ont pu survivre avec le peu qui restait. Ils se sont un peu serrés la ceinture, si on peut dire. Et ils ont réussi tant bien que mal à survivre.
D'accord. Alors, c'est quoi le règne après quelques centaines de milliers d'années, je dirais, après les dinosaures?
Oui.
Quels sont les animaux qui sont prédominants?
Ben, c'est deux choses. Hein. C'est que les mammifères qui commencent à se diversifier, à devenir un peu plus grands, assez graduellement. Il a fallu quand même attendre quelques millions d'années pour avoir des assez gros mammifères. Disons de la taille de, je sais pas, de la taille d'une vache ou quelque chose comme ça, c'est pas venu tout de suite. Hein. Et puis il y a aussi un groupe, alors là c'est les descendants directs des dinosaures, c'est même en quelque sorte c'est des dinosaures en réalité, c'est les oiseaux. Parce que les oiseaux qui existaient avant les dinosaures, il y a eu probablement une grande extinction d'oiseaux, mais il y a quand même certaines espèces qui ont disparu, et après ils se sont énormément diversifiés, ils ont donné, aujourd'hui il y a au moins 10 000 espèces d'oiseaux, et ça s'est fait après la disparition des dinosaures. Donc les grands vainqueurs, si on peut dire, dans cette histoire, c'est les mammifères et aussi les oiseaux.
Les crocodiles, ils font partie de quelle famille d'animaux?
Alors les crocodiles, c'est un groupe de reptiles qui est assez proche des dinosaures, et eux, ils ont survécu. Alors pourquoi ils ont survécu? Ben, probablement parce qu'ils avaient des habitudes, des mœurs plutôt aquatiques, ils vivaient dans des environnements qui ont été moins affectés que la terre ferme par la catastrophe, parce que c'est pas les mêmes chaînes alimentaires, et on voit que tout ce qui vivait dans les eaux douces a plutôt mieux résisté que ce qui vivait d'une part dans les océans et d'autre part sur la terre ferme. C'est des questions d'écologie, de chaînes alimentaires différentes, et qui ont moins souffert que d'autres de la catastrophe.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale pour nos auditeurs.
Oui.
Voilà, et puis on revient tout de suite après la pause musicale. Je vous laisse avec la musique, une musique qui est en correspondance avec nos chers amis, les dinosaures. Voilà. Allez, à tout de suite.
Thank you.
Rebonjour, chers auditeurs, rebonjour. Après cette page musicale sur le thème des dinosaures, on est en direct aujourd'hui pour une émission sur les dinosaures. Pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne, on est en direct avec Éric Buffetot qui était déjà venu et qui nous avait fait une émission sur les dinosaures. Et aujourd'hui, on aborde le thème sur les extinctions et l'extinction des dinosaures et les différentes extinctions d'animaux à travers le monde, des différentes espèces qui se sont éteintes. Et là, après le sujet de l'extinction des dinosaures, on va aborder le thème des différentes extinctions, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut énumérer comme extinction, Éric ?
Alors, ces grandes extinctions, donc, ce sont des périodes bien délimitées dans le temps, hein, qui se sont produites à plusieurs reprises dans l'histoire des êtres vivants. Donc on appelle ça des extinctions en masse parce que elles frappent de nombreuses espèces, des espèces qui sont très différentes les unes des autres. Il y en a qui vivent dans la mer, il y en a qui vivent sur la terre. Donc c'est très particulier et c'est différent des extinctions habituelles qui se produisent un peu tout le temps parce que dans l'évolution des espèces, il y a sans arrêt des extinctions. C'est un phénomène qui est normal en soi. Mais de temps en temps, il se produit quelque chose et de nombreuses espèces disparaissent simultanément. Et donc l'extinction des dinosaures, c'est une de ces extinctions en masse. Mais il y en a eu plusieurs autres auparavant. Celle des dinosaures, c'est la dernière en date, hein, de ces très grandes extinctions. Mais il y en a eu bien avant. Généralement, on en compte cinq. Hein. Les premières se produisent il y a très longtemps, hein. Notamment il y en a une qui s'est produite à la période qu'on appelle le Gordovicien, hein, qui est dans les 400 millions d'années, et à une époque où il n'y avait pas encore d'animaux terrestres d'ailleurs, il n'y avait que des animaux marins. Et là il y a eu une grande crise et beaucoup d'espèces ont disparu. Et puis après il y en a eu d'autres. Alors ce qu'il faut voir, c'est que on connaît pas forcément très bien les causes de ces extinctions. L'extinction des dinosaures, maintenant on commence assez bien à cerner parce que on a découvert cet impact de météorites qui explique bien ce qui s'est produit. Mais pour celles qui sont plus anciennes, on a encore beaucoup de doutes. Alors celles qui datent de Gordovicien, il y a eu plusieurs hypothèses. On a pensé peut-être qu'il y a eu une très grande période glaciaire à cette époque-là, qui avait beaucoup changé le climat et qui avait pu provoquer la disparition des espèces. Mais je dirais que c'est loin d'être une certitude, hein, ça reste hypothétique. Et ensuite, il y en a eu une... pendant la période qu'on appelle le Dévonien, où là, l'évolution avait fait son cours, il commençait à y avoir quelques animaux terrestres, mais beaucoup d'espèces marines, et là, on a aussi une grande extinction. Et là encore, les causes sont pas ultra bien connues. Hein. On pense qu'il y a pu y avoir des changements dans la composition des océans, des choses comme ça. Mais ça reste un sujet de discussion, hein, entre les spécialistes. Et puis plus tard, à la limite, à la fin de la période permienne, hein, c'est une grande coupure dans l'histoire des êtres vivants, c'est entre deux grandes ères, l'ère paléozoïque, hein, ce qu'on appelait l'ère primaire autrefois, et l'ère mésozoïque, qu'on appelait l'ère secondaire. Et il y a une très grosse extinction qui est peut-être la plus grande qui est eue dans toute l'histoire des êtres vivants, parce que on dit parfois que 90% des espèces ont disparu à ce moment-là. Et donc on se pose des questions là encore sur la cause. Et une des explications, il y a eu beaucoup d'explications pour ça. Certains ont pensé qu'il y avait eu un impact de météorites, mais ça n'a pas été vraiment confirmé. On dit souvent que c'est à cause d'un très très violent volcanisme qu'il y a eu en Sibérie à ce moment-là et qui aurait provoqué des grands changements de l'environnement. Moi, je dirais qu'on est encore un peu dans l'incertitude à ce sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu, c'était vraiment une très très grosse extinction et qui a changé beaucoup la composition des flores et des faunes, surtout des faunes d'ailleurs à cette époque. Et après cette extinction, le monde est reparti vraiment d'une façon complètement différente. Et après, il y en a une qui se passe vers la fin du Trias, donc ça se passe il y a à peu près 200 millions d'années, qui est une extinction un peu compliquée, qui s'est peut-être faite en plusieurs temps, qui a supprimé beaucoup de reptiles qui vivaient à cette époque, mais pas les dinosaures. Les dinosaures existaient déjà à ce moment-là, mais eux n'ont pas été vraiment affectés. Et là aussi, là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que c'est une question de volcanisme? Est-ce qu'il n'y a pas eu un impact de météorite? Ça reste un peu mystérieux. Et puis après, bon, la dernière grande extinction en date, hein, c'est celle des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Donc ce qu'on veut dire, c'est que dans l'histoire des êtres vivants, il y a eu quand même plusieurs phases d'extinction très sévères et qui ont beaucoup changé la vie sur Terre.
Est-ce qu'il y a une période où il y avait des insectes géants? J'en avais entendu parler dans un livre justement qui parlait des premières espèces sur la Terre. C'était quelle période?
Alors les insectes géants, c'est surtout la période qu'on appelle le Carbonifère. On appelle Carbonifère parce que c'est l'époque où se sont formés les très grands gisements de charbon qu'on trouve en Europe ou en Amérique du Nord. Et la période Carbonifère, donc c'est fait partie du Paléozoïque. Hein, elle se situe plusieurs millions d'années avant la grande extinction de la fin du Paléozoïque. Et c'est le charbon, il faut voir que c'est formé à partir de débris végétaux qui ont été enfouis, qui se sont transformés ensuite en charbon. Et au début, le charbon, c'est des plantes. Et il y avait donc de très grandes forêts et dans lesquelles il vivait aussi de très gros insectes. Il y avait des insectes de très grande taille. On parle souvent d'une sorte de libellule géante qui faisait 75 cm d'envergure, dont on a trouvé les restes en France, notamment au Massif central. Et donc c'est une époque où il y avait de très très gros insectes.
Est-ce qu'on peut parler de ce qu'il y avait avant l'apparition des premières formes de la vie, de la faune des Diacara, puisqu'il y avait la faune des Diacara?
La faune des Diacara est très ancienne, elle a plus de 540 millions d'années. C'est la première faune qu'on connaît un petit peu bien, hein, parce qu'on a un certain nombre de fossiles. Les faunes plus anciennes, on les connaît très très mal, parce qu'on n'a pas beaucoup de fossiles. Mais Diacara, c'est le nom d'un endroit en Australie où on a trouvé les premiers fossiles de cette époque, mais on en trouve ailleurs, hein, un peu dans le monde entier maintenant. Alors, c'était une faune très très particulière, hein, qui ressemblait à aucune faune ultérieure, disons, des animaux vraiment qui sont très très bizarres comme aspect, qui vivaient au fond de la mer, à la surface des fonds marins. Et ensuite, cette faune a disparu et a été remplacée par des animaux un peu moins bizarres, même s'ils ne sont pas vraiment ceux d'aujourd'hui. C'est quand même des choses qui ressemblent un petit peu plus à ce qu'on connaît. La faune de Diacara, c'est vraiment un peu un monde à part, c'est très très particulier. Mais qui marque une époque importante, hein, dans l'évolution des êtres vivants, parce que là on commence à avoir des animaux d'une certaine taille, hein, qui vivent dans la mer et qui se déplacent sur les fonds marins.
Alors la faune aquatique a eu un règne, parce que elle a eu son règne avant les amphibiens. Ça a eu un règne de combien de temps à peu près?
C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'au départ, tous les êtres vivants vivaient dans l'eau. Hein. Et c'est plus tard que certaines espèces se sont adaptées à la vie à l'air libre sur la terre ferme. Et ça s'est fait graduellement, parce que d'abord, il y a des plantes qui se sont installées sur la terre ferme. Et ça remonte très loin, ça remonte à quelque chose comme peut-être 400 millions d'années. Et ensuite, graduellement, il y a des animaux qui sont aussi sortis de l'eau et ont commencé à vivre sur la terre. Des insectes, hein, des invertébrés divers, et puis ensuite des amphibiens, hein, dont les ancêtres étaient des animaux aquatiques, hein, étaient des poissons, en fait, si on peut les appeler comme ça. Et on connaît un peu la transition entre des animaux qui sont encore qui ressemblent beaucoup à des poissons, mais qui ont déjà des membres qui ressemblent un peu à des pattes plutôt qu'à des nageoires. Et ensuite, on trouve des animaux qui, eux, sont des amphibiens qui devaient pouvoir vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Et qui commençaient à avoir de véritables pattes qui leur permettaient de se déplacer sur la terre ferme.
Alors, le règne des amphibiens a commencé quand, il y a combien de temps?
Le règne des amphibiens, ça commence au Dévonien, donc on est dans les 350 millions d'années, par là.
D'accord.
Et puis, les amphibiens ensuite ont été pas remplacés, parce qu'il y en a encore aujourd'hui, bien sûr, il y a encore des grenouilles, des salamandres, tout ce que vous voulez. Parmi les amphibiens, l'évolution a fait que certains animaux, les amphibiens actuels encore aujourd'hui, leur particularité, c'est qu'ils se reproduisent dans l'eau. Hein, les grenouilles, elles vont pondre leurs œufs. Il y a des exceptions, il y a des amphibiens qui se débrouillent autrement, mais la plupart des amphibiens, pour se reproduire, il faut qu'ils aillent dans l'eau, et ils pondent leurs œufs dans l'eau, et ensuite l'embryon il se transforme chez les grenouilles. C'est très connu, c'est les œufs sont pondus dans l'eau, quand ils éclosent ils sortent des têtards, les têtards n'ont pas encore de pattes, et pendant leur croissance ils finissent par avoir des pattes et à se transformer petit à petit, à donner des grenouilles qui elles-mêmes peuvent aller sur la terre ferme, etc. Alors, donc les amphibiens, ils sont tributaires de l'eau pour se reproduire. Les reptiles qui auront succédé, c'est différent parce que les reptiles pondent des œufs sur la terre ferme, des œufs avec une coquille, et l'embryon se développe dans la coquille, à l'intérieur de la coquille, sur la terre ferme. Au bout d'un certain moment, il éclot et il donne un jeune reptile. Donc il y a un grand changement en ce moment-là dans le mode de reproduction entre les amphibiens et les reptiles.
D'accord. Alors, avant cette période, il y a eu une période, je ne sais pas si on peut en parler, moi j'ai quelques connaissances sur cette période, c'était la période où on était, il y avait un manque de bactéries, où on avait effectivement les premières bactéries, les eucaryotes, les prokaryotes, et on a eu des extinctions massives aussi, puisqu'on a eu une terre glacée et une terre boule de neige.
Oui.
Est-ce qu'on peut en parler un peu de cette période ?
On peut en parler. C'est pas des choses que je connais particulièrement bien, mais c'est sûr que avant qu'on ait les premières formes de vie un peu abondantes, la faune de Diacara par exemple, où on a pas mal de fossiles, avant il y a eu une très très longue période parce que les premiers êtres vivants sur Terre, ils ont plus de 3 milliards d'années. Ils ont peut-être dans les 3 milliards et demi, 3 milliards 800 millions d'années. Mais on les connaît mal. Ce sont des formes de vie microscopiques. Et à ce moment-là, il s'est passé énormément de choses à la surface de la Terre, et effectivement il y a eu une période très froide durant laquelle il semble que la Terre était pratiquement entièrement recouverte de glace. Donc pour les êtres vivants c'était pas très commode, mais malgré tout ils ont quand même réussi à survivre pour donner ce qu'il y a eu par la suite. Et ça c'est une chose importante à voir, c'est que quand on parle des cinq grandes extinctions, etc., ça se fait dans une période de temps qui est longue, hein, ça fait plus de 500 millions d'années, mais bien avant ça, la Terre a une histoire beaucoup plus longue dans laquelle il s'est passé énormément de choses. Et des choses qu'on connaît encore relativement moins bien, je dirais, parce que c'est des événements très anciens qui ont laissé des traces qui ne sont pas faciles à interpréter. Les êtres vivants étaient microscopiques, ils ne sont pas faciles à trouver, et ainsi de suite. Donc il y a une très grande partie de l'histoire de la vie sur Terre, on la connaît encore relativement mal, et on découvre régulièrement des choses nouvelles, mais c'est un travail très compliqué.
Parce que ce que j'en sais, c'est que on a eu la première ère sur Terre, il y a approximativement 3,5 milliards d'années, où on avait des prokaryotes, les premières.
Oui, on a des êtres très très simples, hein, qui des choses qui existent encore aujourd'hui, mais à cette époque il n'y avait que ça, quoi. C'est ça la grosse différence. Et là on est dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde actuel, hein. Si on s'était promené à ces époques-là, on n'aurait vu que des roches et de l'eau, hein. Les êtres vivants étaient microscopiques et ne devaient pas se remarquer très facilement.
D'accord. Alors, on peut dire que toute l'histoire de la Terre débute il y a de la vie débute il y a 3,7, 3,8 milliards d'années.
C'est ça, oui, dans ces étapes qu'on admet aujourd'hui, elles peuvent changer, bien sûr, au fur et à mesure des découvertes, mais c'est ce qu'on admet aujourd'hui. Donc la Terre avait déjà, c'est déjà assez ancienne, puisqu'elle a à peu près 4,6 milliards d'années, la Terre, et donc on est à un peu moins d'un milliard d'années après la formation de la Terre. On commence déjà à avoir des êtres vivants qui sont... pas facile à retrouver, mais que on sait qu'ils existaient.
Jusqu'à ce qu'il y ait l'extinction des dinosaures, il y a 65 ou 66 millions d'années, et qu'on rentre dans une nouvelle ère où on a effectivement l'apparition des premiers hommes bien plus tard.
Bien plus tard, parce que là on arrive. Ça dépend ce qu'on entend par homme, évidemment, parce que bon, le genre homo, hein, le genre homme, lui, là, dans les peut-être 2-3 millions d'années, avant il y a des choses qui s'en rapprochent, mais qui sont, je ne sais pas si on peut dire que c'est déjà des hommes. Et enfin, l'homme est apparu tard dans l'histoire de la Terre, ça c'est certain.
D'accord. Voilà, notre émission arrive à sa fin, donc on vous remercie de l'avoir écouté, on remercie énormément Eric d'avoir participé à cette émission. Je pense qu'Eric, s'il en a envie, bien entendu, nous fera une émission prochainement sur les fossiles. Vous aviez écrit un livre sur les fossiles, je crois.
Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Fossiles et traditions populaires ». Alors ça, il s'agit des croyances qu'il y a eu depuis des époques très reculées d'ailleurs au sujet des fossiles, avant que la science ne comprenne ce que c'était. Il y a toutes sortes de légendes, d'histoires, de croyances au sujet des fossiles qui sont tout un ensemble très très divers hein, dans le monde entier, et ça m'a beaucoup intéressé, donc j'ai écrit un livre là-dessus qui a été publié il y a quelques années aux éditions du Cavalier Bleu, qui s'appelle « Fossiles et croyances populaires », et c'est un sujet bon, qui à mon avis est assez amusant, parce qu'on se rend compte des idées parfois très très curieuses, un peu saugrenu ou extraordinaire qu'il y a pu y avoir au sujet des fossiles, avant qu'on ne comprenne que c'était des restes d'êtres vivants qui avaient vécu dans le passé lointain.
D'accord. Bon, vous serez le bienvenu dans cette émission. On aura fait 3 émissions ensemble. Et 4, parce que vous nous aviez fait une émission sur les animaux mystérieux.
Absolument, oui. Les animaux mystérieux.
Voilà. Merci Eric, merci infiniment d'avoir participé à cette belle émission sur le règne animal. Merci infiniment aux auditeurs qui nous ont écoutés. La prochaine émission, vérifiez sur la page Facebook des Portes de la Connaissance d'O2 Radio. Vous verrez l'émission qui sera affichée. Et on fera certainement une émission aussi très intéressante, puisque vous avez l'habitude d'avoir des émissions qui sont très intéressantes. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir Eric, merci encore infiniment.
Au revoir et merci aussi.
Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Allez, au revoir.
Au revoir.
Les Portes de la Connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.